Radio Prague, les informations.
Le ministre tchèque de l'Environnement était en visite à Londres. Le duel entre Václav Klaus et Jan Černár sera pour le 29 janvier. La chaîne internationale Starbucks entre en Tchéquie. À Londres, le ministre de l'Environnement Martin Bursik a discuté avec son homologue britannique de la question des sources d'énergie renouvelable. La République tchèque devra certainement augmenter la part de ses sources dans son économie énergétique, car la Commission européenne compte décider que la Tchéquie devra augmenter cette part d'ici à l'année 2020 pour atteindre 14%, et cette décision sera publiée le 23 janvier. Le président de la République, Václav Klaus, et son adversaire à l'élection présidentielle du 8 février, Jan Švejnár, devraient se rencontrer lors d'un duel au Sénat le 29 janvier. Ce débat est organisé par le groupe des sénateurs sociaux-démocrates. Il aura lieu dans la salle principale du Sénat et sera ouvert à tous les sénateurs. C'est mardi prochain que la chaîne de restauration internationale Starbucks fera son entrée en Tchéquie en ouvrant son premier café sur la place Malostranska, sur la rive gauche de la Vltava, sous le château, et vers la fin du mois de février, un second café au centre commercial Palladium. La Tchéquie est le premier pays de l'Europe centrale où Starbucks s'installe. La chaîne devrait ouvrir des cafés aussi en Pologne au cours de cette année. Le Parti communiste vient de déclarer que le gouvernement discute de l'indépendance du Kosovo sans consulter le Parlement et sans en informer le public. Une déclaration faite après la rencontre du ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, avec le premier ministre kosovar, Hashim Thaçim, le 14 janvier, où il a déclaré que la Tchéquie adopterait la même position que les autres pays de l'Union européenne dans la question de l'indépendance du Kosovo. Ceci serait inacceptable pour les communistes. La cour de Prague 9 vient de décider que le château de Kolodieje devrait être restitué à Vítězslav Kumper, qui en avait fait la demande. Actuellement, le château sert surtout aux réunions du gouvernement. En plus du château, d'autres bâtiments adjacents et une chasse devraient aussi être restitués. Le gouvernement peut encore faire appel. En sport, la championne tchèque Nicole Vaidišová vient de passer le troisième tour de l'Australian Open en battant la japonaise Tsukuyama 6-3-6-4. Elle se retrouve ainsi en huitième de finale et devra faire face à la championne de l'année dernière, l'américaine Serena Williams. Cette dernière l'avait battue en demi-finale l'année passée. Vaidišová a apprécié la résistance de la japonaise, mais elle avait la volonté de gagner. Avant de nous quitter pour ce bulletin d'information, la météo qui nous annonce des températures un peu hors de saison pour le week-end. En effet, le thermomètre devrait même grimper jusqu'à 10 degrés. Le ciel sera passablement couvert et les pluies ne sont pas exclues un peu sur tout le territoire. Le soleil pourrait briller en montagne par contre, à la grande joie des skieurs qui disposent d'une bonne couche de neige dans toutes les stations. Bonne fête le 19 janvier, ou Dobravka, un prénom tchèque. C'était les informations par Alain Stivinski qui vous souhaite une bonne écoute de la suite du programme en langue française de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour et bienvenue à notre dernière émission avant le week-end. Et l'on reparlera une fois de plus des néo-nazis en République tchèque. Finalement, la manifestation prévue ce samedi à Plzeň a été interdite par la mairie de la ville. Mais après pas mal de tergiversations, Alexis Rosenzweig nous en dira plus. S'en griller une après un repas au resto, est-ce du passé ? Ça pourrait le devenir en tout cas, si le Parlement tchèque décidait de suivre les recommandations de sa commission chargée de la santé qui vont dans ce sens. Alain Slivinski dans quelques instants. Les frères Forman ont collaboré à la mise en scène de Macbeth, montée par une troupe belge. La pièce est présentée ces jours-ci à Nancy et nous écouterons son metteur en scène. On finira avec notre correspondant à Paris, Jiří Slavíček, qui évoquera l'exposition de Pavel Brazda qui a commencé dans la capitale française. Ou que vous nous écoutiez dans le monde, bonne écoute de nos programmes. La municipalité de Plzeň a interdit un défilé prévu par l'extrême droite samedi. C'est ce qu'a annoncé le maire, qui a donc fini par prendre la même décision que le maire de Prague en novembre dernier, quand des néo-nazis avaient voulu défiler dans le quartier juif de la capitale. Alexis Rosenzweig pour plus d'informations.
Un peu plus de deux mois après l'importante mobilisation antifasciste à Prague, c'est cette fois à Plzeň que des militants d'extrême droite voulaient tenter de manifester. Critiqués ces derniers jours pour ne pas avoir interdit cette marche, officiellement présentée comme une marche pour la liberté d'expression, Pavel Rödl, le maire de la quatrième ville la plus importante du pays, s'est finalement décidé à empêcher les néo-nazis de défiler dans les rues. On l'écoute.
Nous suivons la situation depuis le début de la semaine avec la police, notamment ce qui se dit sur les sites internet, et nous nous sommes rendus compte que ce qui se passait à Prague pouvait se répéter ici. Et Plzeň est 10 fois plus petite que Prague, donc la menace sur la sécurité en ville est considérablement plus grande.
Cette marche était prévue le lendemain d'une date plus que symbolique. Le 18 janvier marque le début de la déportation des premiers juifs de Plzeň, c'était en 1942. Le parcours du défilé traversait entre autres le quartier de la Grande Synagogue, la troisième plus grande synagogue du monde, devant laquelle la communauté juive tchèque a maintenu son rassemblement. Il est prévu samedi en début d'après-midi. Et selon la police tchèque, qui a organisé une conférence de presse spéciale ce vendredi, les néo-nazis devraient respecter l'interdiction du maire de Plzeň, mais environ 700 d'entre eux, des Tchèques mais aussi des étrangers, pourraient se réunir ailleurs, peut-être à Prague, où ils avaient déjà eu l'intention de manifester. C'était le jour anniversaire de la Nuit de Cristal, en novembre dernier, où certains d'entre eux s'étaient fait tabasser par des militants antifascistes. Les forces de l'ordre prévoient une opération d'envergure, samedi, avec plus d'un millier d'hommes mobilisés, des canons à eau et un hélicoptère. De son côté, la police allemande a indiqué qu'elle allait intensifier les contrôles dans les zones frontalières pour empêcher les extrémistes allemands de se rendre en République tchèque samedi.
Depuis le 1er janvier 2008, la France, mais aussi la Bavière, se sont jointes aux pays qui interdisent de fumer dans les restaurants, les cafés et autres établissements de restauration. Ce n'est pas encore le cas en Tchéquie, mais les députés viennent de faire un premier pas dans ce sens. Alain Slivinski.
La décision prise par la Bavière d'interdire de fumer dans les restaurants et cafés de ce land allemand à partir du 1er janvier dernier avait fait la joie des propriétaires tchèques de restaurants et cafés proches de la frontière. En effet, les fumeurs bavarois, qui ne voulaient pas abandonner leur vice, ont vite pris l'habitude de traverser la frontière, qui n'en était plus une depuis l'entrée de la Tchéquie dans l'espace Schengen, pour venir savourer une bonne bière et une cigarette chez le voisin. En plus de cela, ils font des économies puisque les cigarettes surtout sont beaucoup moins chères en Tchéquie qu'en Allemagne, même si la taxe à la consommation sur les produits du tabac augmente en Tchéquie et se rapproche peu à peu de la moyenne européenne. Peut-être que la décision prise mercredi par la commission de la santé de la Chambre des députés tchèques va leur faire l'effet d'une douche froide. En effet, les députés de cette commission, à l'issue de la discussion sur l'amendement à la loi concernant la protection de la santé contre les effets nocifs du tabac, ont choisi la solution la plus stricte. Dans le cas de l'adoption de l'amendement par les deux chambres du Parlement et sa signature par le président de la République, il serait interdit de fumer dans les cafés, les restaurants et établissements du même genre en Tchéquie. À ce propos, le commentateur du quotidien Lidové Noviny, Martin Zvezina, écrit que même si cela ne plaît pas aux libéraux, il faut se rendre à l'évidence. Les fumeurs nuisent à leur entourage et à l'environnement, ce qui n'est pas compensé même par le rapport au trésor public par le biais d'une forte imposition à la consommation des produits du tabac. Le ministère des Finances vient d'ailleurs de constater avec joie que l'impôt sur la cigarette a rapporté beaucoup plus que prévu en 2007. Mais n'oublions pas non plus que les fumeurs sont aussi de gros consommateurs de moyens financiers de la sécurité sociale. Le président de la Commission, l'ancien ministre social-démocrate de la Santé, David Rath, a présenté une proposition intéressante. Interdire, certes, mais permettre aussi des fumeries où les fumeurs ne pourraient nuire qu'à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouveraient en marge de la société et deviendraient l'objet de la réprobation totale de la majorité des citoyens qui ne toléreraient plus du tout la cigarette dans les endroits où la loi l'interdit déjà. En effet, aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les gares ou les arrêts d'autobus, par exemple, ou d'autres lieux publics, mais la loi est très souvent violée sous l'œil indifférent de Monsieur Tout-le-Monde. Il y aurait aussi de moins en moins de députés ou sénateurs qui seraient prêts à prêter l'oreille aux arguments du lobby de l'industrie du tabac.
Arsenic, une troupe belge itinérante s'est attaquée à l'éternel Macbeth et s'est adjoint les services de Peter et Matthieu Forman pour une mise en scène qui littéralement décoiffe Shakespeare, selon les mots d'un chroniqueur du Monde. Ils sont actuellement en représentation, place Carnot à Nancy. Pour nous en dire plus, écoutons Axel de Beausseret, le metteur en scène.
La première chose qu'on peut dire de cette pièce Macbeth, c'est qu'elle se déroule dans un lieu tout à fait particulier, puisqu'il s'agit d'une tour en bois qui se déplace, qui est itinérante, un théâtre ambulant, inspiré des théâtres élisabétains. C'est une tour assez haute puisqu'elle fait quand même 12 mètres de haut. Les spectateurs s'installent sur trois niveaux. Il y a plusieurs étages à l'intérieur. C'est 40 tonnes de bois dans lequel les spectateurs s'installent et le spectacle se déroule également dans la salle. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est que le spectacle se déroule vraiment très très près des spectateurs. On est vraiment dans une très grande proximité à l'intérieur de cette tour et qu'il est joué par des acteurs, mais qui sont aussi marionnettistes. Et donc, on a un mélange de jeux d'acteurs et de jeux de marionnettes.
Alors justement, pour ce qui est des marionnettes, vous avez fait appel aux frères Forman, Petr et Matěj Forman, donc ils sont bien connus ici en République tchèque. Et pourquoi est-ce que vous avez fait appel à eux? Comment est-ce que vous les avez rencontrés?
On avait eu l'occasion de voir leur spectacle, et donc c'était vraiment deux artistes qu'on appréciait énormément pour leur travail et qui nous semblaient assez proches aussi de notre sensibilité, de notre imagerie aussi. Et donc on a proposé à Petr, plus particulièrement, de Forman, de prendre en charge et de réfléchir avec nous au monde des marionnettes à l'intérieur de ce spectacle Macbeth.
Quand on pense à Macbeth, on pense en effet plutôt à une mise en scène assez traditionnelle. Alors déjà vous-même, votre travail a été visiblement de casser un peu cette idée, voilà, qu'on peut associer à cette pièce. Et alors en plus, il y a cette dimension des marionnettes. Comment est-ce que ce travail s'intègre exactement dans la pièce, si vous pouvez un petit peu décrire?
En fait, on a imaginé que cette pièce était tout un voyage onirique de la part de Macbeth. Donc on entrait dans son monde intérieur, dans son esprit, puisque dans cette pièce, dans la pièce de Shakespeare, Macbeth a une série d'hallucinations, voit des sorcières, il rencontre des spectres, des objets volants. Enfin, donc c'est une pièce assez fantastique dans l'écriture. Et donc on a voulu augmenter ce côté fantastique, ce côté cauchemardesque de la pièce. Et progressivement, au fur et à mesure que le héros perd pied par rapport à la réalité, entre dans une forme de folie, eh bien de plus en plus il est entouré de marionnettes. Au début, il est principalement entouré d'acteurs, de personnages réels, et puis au fur et à mesure qu'on plonge dans son cauchemar, les marionnettes deviennent de plus en plus présentes.
Macbeth par la troupe Arsenic, c'est jusqu'au 26 janvier à Nancy. Autre étape prévue en France, Montargis, Sénart et Montpellier. Pour connaître toutes les dates de passage, www.arsenic.eu. Le Centre culturel tchèque de Paris présente à son public de plus en plus nombreux et fidèles une exposition des œuvres de Pavel Brazda, artiste peintre. Un homme qui a non seulement su résister toute sa vie aux deux totalitarismes du siècle dernier, à savoir le nazisme et le communisme, mais qui en plus, et malgré son isolement forcé, a su créer une œuvre originale, une œuvre qui se joue des modes qu'on essaie souvent d'imposer. Cette exposition sera ouverte au public parisien jusqu'au 28 mars. À Paris, Jiří Slavíček était au vernissage.
C'était beaucoup plus qu'un vernissage réussi d'un peintre original, d'un esprit jeune malgré son âge. Pavel Brazda, né le 21 août 1926 à Brno, capitale de la Moravie, était présent avec sa femme, artiste peintre elle aussi. Ses tableaux aiment les couleurs vives qui parlent fort aux visiteurs. Faute d'être plus précis devant ses peintures, on les qualifie d'art brut, mais c'est sa vie d'artiste qui intéresse autant le public. Comme le dit son dossier, le destin de Pavel Brazda est particulièrement représentatif. Envoyé aux travaux forcés pendant l'occupation nazie, persécuté sous le régime communiste, il fut de ceux qui, jusqu'à la révolution de velours en 1989, ne purent avoir de vie libre que dans la clandestinité. Mais ce vernissage, en présence de l'ambassadeur de la République tchèque en France, c'était surtout pour Jitka de Préval, la directrice du centre, l'occasion de parler du Festival des Huit. En effet, l'histoire tchèque, souvent si intimement mêlée à la France, reste marquée par toute une série de bouleversements qui coïncident avec des années se terminant justement en Huit. Par exemple, 1918, le premier État libre et démocratique tchécoslovaque est proclamé plutôt à Paris qu'à Prague, 1938, je vous laisse deviner, ainsi que 48 et 68. Et on annonce moult événements, aussi bien à Prague qu'à Paris, où les relations franco-tchèques seront étudiées cette année, qui bien sûr se terminent en 8. on va aussi parler d'un nouvel avenir. Il ne faut pas oublier que le 1er janvier 2009, c'est Paris qui passe le flambeau de la direction de l'Union européenne pour 6 mois à Prague. Et comme le disait si joliment Jitka de Préval, l'exposition des œuvres de Pavel Brazda représente le premier pas de cette année des commémorations franco-tchèques des années en 8. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
Voilà, c'est la fin des faits et événements, mais restez à l'écoute. Je vous retrouve tout de suite, une fois n'est pas coutume, pour la rubrique économique.
Économie, commerce.
Le 10 janvier, les prix de la Chambre de commerce franco-tchèque ont été remis dans 3 catégories, plus une catégorie spéciale. Ce concours, une première, visait à distinguer des personnalités ou des sociétés françaises ou tchèques qui ont eu une démarche innovante visant à promouvoir le lien social, la culture ou l'environnement. La catégorie spéciale, prix spécial du jury, a été attribuée à Silvano Pedretti, ancien vice-président du groupe immobilier Orco. Il s'est récemment reconverti après un passage par la politique lorsqu'il s'est porté candidat pour les dernières élections européennes. Il a lancé le concept des bio-cafés, concept pour lequel il a été distingué par le jury du concours. Surfant sur la vague bio, Silvano Pedretti nous a parlé un peu plus longuement du concept et du marché de l'agriculture bio en République tchèque.
Cette société, je l'ai créée en 2004, le temps de concevoir le concept, puisqu'au départ j'avais un autre concept qui s'appelait Eurocafé, et je suis venu à Biocafé en courant 2004, lorsque je traversais la République tchèque pour ma campagne, pour les européennes. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'alternative aux grands fast-food, aux grands de la restauration rapide. Et donc, je me suis dit pourquoi pas ne créer Biocafé, la première chaîne en Europe de café-restaurant servant des boissons et de la nourriture issue de l'agriculture biologique.
Et où êtes-vous implanté alors, à part la République tchèque, puisque vous dites une chaîne européenne ?
Aujourd'hui, nous sommes uniquement en République tchèque, puisqu'il fallait bien commencer par un pays, comme c'est un pays auquel je suis attaché et que je connais bien. Donc on a commencé en République tchèque, aujourd'hui on a 6 cafés en République tchèque, surtout à Prague d'ailleurs. Et nous commençons par un système de franchise et de master franchise à vendre le concept Biocafé en Europe. Sans doute un début en Allemagne, puisque les Allemands sont parmi les premiers, sinon les premiers consommateurs de produits biologiques en Europe. Ensuite suivra la France, et puis seront les différentes opportunités, les discussions. Ça peut être Luxembourg, Genève, pour la partie ancienne Europe, je dirais, et la nouvelle Europe. On va naturellement aller sur Bratislava, puisque c'est à côté et que c'est un prolongement de Prague. On a des demandes pour des franchises à Bratislava. La Pologne également, puisque c'est un pays agricole et de plus en plus réalisant de l'agriculture biologique.
Comment évaluez-vous le marché du bio, justement, en République tchèque et aussi la clientèle ? Est-ce que les Tchèques sont réceptifs, justement, à cette tendance ? Parce qu'on peut quand même parler de tendance bio à l'heure actuelle.
Effectivement, on parle plus de mode. C'est vraiment une tendance, et une tendance lourde et profonde, à tel point que les dernières années ont vu une augmentation de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique. Ces 2 ou 3 dernières années, chaque année, c'était plus 40%. Ici en République tchèque, on a à peu près le même chiffre pour l'Europe centrale, autour des 40%. Ceci dit, c'est encore un faible pourcentage de la consommation de produits agricoles. La distinction se fait par les subventions. La République tchèque a obtenu pas mal de subventions de la part de la communauté européenne pour développer l'agriculture issue de produits biologiques. Le gouvernement tchèque a décidé de dépenser plus de 1 milliard de couronnes pour la communication sur la consommation de produits biologiques. Et puis, le meilleur moyen également de voir ce développement, c'est le nombre de petits potravini qui se développent chaque mois en République tchèque, surtout à Prague. Voir que les grands de la distribution, comme Tesco par exemple, aujourd'hui ont clairement une stratégie de développement des produits biologiques. Et puis enfin, plus modestement, de voir l'augmentation qui est environ de plus 5% par mois de notre clientèle biocafé.
Et pour vous, quels sont les enjeux alors à long terme ?
Il y a le long terme, effectivement. Le long terme, c'est un futur qui devrait être rose. Pour l'instant, c'est le court terme et le moyen terme. Le court terme, c'est vraiment éduquer la population tchèque à mieux connaître les produits biologiques. Le moyen terme, c'est une conséquence du court terme et de l'action commune du gouvernement, des différents acteurs qui travaillent sur le bio. Le long terme, c'est une vision qui ne m'est pas personnelle, que tout le monde partage. On sait très bien qu'à long terme, plus de 50% des produits qu'on trouvera dans... Le long terme, c'est 5 ans, hein, c'est pas 15-20 ans. À 5 ans, je dirais, plus de 50% des produits qu'on trouvera dans nos supermarchés seront issus de l'agriculture biologique. Donc là, ça ne sera plus une éducation, mais carrément une compétition entre les différents fournisseurs. Et il sera tout à fait naturel de manger, de boire des produits issus de l'agriculture biologique. Ce qui est pour nous encore une modification de nos habitudes, pour nos enfants qui seront adultes dans une dizaine d'années ou dans une quinzaine d'années, ça sera quelque chose de naturel de manger et de boire bio.
Puisqu'on est à la radio et qu'on ne peut pas voir, il n'y a pas d'image. Est-ce que vous pourriez un peu décrire le concept du biocafé, à l'intérieur par exemple aussi, à quoi ça ressemble ?
Alors, il faut savoir qu'un biocafé, c'est une alternative à un fast-food. Je souhaitais, au niveau des prix, offrir aux clients quelque chose qui s'assimilait au fast-food classique. Donc, par exemple, un menu est à environ 3 euros, à 100 couronnes, à 99 couronnes exactement, et un autre à 119. Même s'il se trouve que notre cible, ce sont pour l'heure, surtout les personnes avec une certaine éducation ou les femmes de 20 à 30 ans qui viennent avec leurs enfants, il est évident que pour nous, la cible doit s'élargir et tout le monde doit profiter du bio. Ça, c'est au niveau de la cible et à qui s'adressent nos produits, que ce soit des panini, des pizzas, de la soupe ou des jus de fruits frais. Et également du vin. N'oublions pas, dans le concept bio, qu'est-ce que c'est ? Issu de l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans conservateurs, sans produits chimiques et sans colorants. C'est tout simple. Ça ne veut pas dire que nous sommes végétariens ou que nous ne buvons pas de vin. Ensuite, au niveau de l'endroit en lui-même, au niveau technique, c'est pas parce que on est dans un concept de fast-food, donc du fait de manger rapidement, que pour autant, il faut qu'on ne prenne pas plaisir à rester dans l'endroit. Donc c'est un self-service et on est servi très rapidement, en quelques minutes, on se sert. Mais ensuite, Biocafé est plutôt adepte du slow food movement qui est né en Italie il y a une dizaine d'années, qui consiste à manger des choses saines mais également prendre son temps pour manger. Pour les gens qui n'ont pas encore visité nos endroits, à l'intérieur on est parti d'un esprit minimaliste, on a voulu réchauffer l'atmosphère et rendre encore plus conviviale l'atmosphère. Donc aujourd'hui nos nouveaux biocafés ont plutôt un style, je dirais, baroque, c'est-à-dire on a des grands papiers peints à grosses fleurs rouges ou oranges, des grands chandeliers. Alors c'est le baroque revisité, bien sûr. C'est Philippe Stark qui a dessiné les chaises de biocafé. Les biocafés sont non-fumeurs. J'ai un peu anticipé la législation européenne et même la législation française, et surtout tchèque bien sûr, puisqu'aujourd'hui on peut encore fumer dans les cafés. À la limite, je dirais qu'on pourrait croire que ça nous pénalise, puisque les gens fumeurs ne sont pas très tentés de venir dans Biocafé. Mais lorsqu'on approfondit un peu cette problématique, on s'aperçoit que les gens qui fument ne réservent pas dans un wagon fumeur lorsqu'ils prennent le train. De la même façon dans les avions quand c'était encore fumeur. Pour les cafés, je pense que l'inconvénient qu'on pourra avoir est largement compensé par l'avantage que les gens ont de retrouver un endroit convivial, intimiste, où on se repose, où on discute avec de la musique ethnique et non fumeurs.
Fin de la rubrique économique. La semaine prochaine, retrouvez les deux autres gagnants du concours, la personnalité de l'année et l'entreprise de l'année. Fin des émissions en langue française de Radio Prague. Retrouvez tous nos sujets sur le www.radio.cz. À bientôt, ahoy.
Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá, modli se, lekni na kolena, naposled něco si přej, jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá směj se. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá modli se. Lekni na kolena na posledně, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodlučí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. Asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, jako je bodlučí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. A jeden veselej je a druhej smutnej. Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy, nemůžou se na to dívat, a druhý je smutnej. Něco jako má buzík, kterýmu se nezdají chlapy, feťák, co hledá zlatou, nemůže za to, že nepřestává se trápit. Vnímá tvý tělo jak zvuky, pak najednou mezi nima všechno zvažuje dvakrát a na prstek jedné ruky se dá spočítat, kolik lásek bylo, co házeli. A ještě ti zbydou volný, ale to každý zná. Jeden veselej je a druhej smutnej, šeptá modli se.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz and